Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le texte que nous venons de lire maintenant, merci pour ta parole, merci pour le parcours qui nous a conduits jusqu'ici, jusqu'à ce moment précis où tu veux nous parler vraiment jusqu'au fond de nos âmes, jusqu'au fond de notre cœur, du mal qui l'imprègne et qui est cette grande inimitié, cette grande hostilité avec ta personne. Nous n'avons rien de bon qui habite en nous, rien qui puisse attirer ta faveur, rien qui puisse faire simplement déclencher ta pitié, Seigneur. Mais dans ta grâce, librement et souverainement, tu te plais à sauver des personnes qui ne le méritent pas, et tu le fais en Christ. Et Seigneur, je te prie d'aiguiser, de développer notre reconnaissance aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre quelle est la hauteur, la grandeur, la largeur, la puissance de ton amour que tu as déployé et manifesté en Jésus-Christ pour nous, et que nous puissions te louer tel que nous le ferons au ciel, Seigneur, dès à présent, dès maintenant. Rends notre cœur semblable à ce qu'il devrait être, et accorde-nous de vivre la grâce, de vivre dès aujourd'hui cette vie qui est celle que nous aurons cachée avec Christ en Dieu au ciel. Nous te prions, Seigneur, de nous façonner, de nous transformer par ta parole, et nous savons qu'elle est puissante et efficace pour le faire. Nous te remettons ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous avons abordé dimanche il y a 2 semaines, je crois, c'est ça? Ou il y a 1 semaine? Peu importe. Dimanche, la dernière fois que je suis venu, nous avons abordé ensemble le texte d'un Corinthiens 10, versets 1 à 13, et j'avais commencé par une illustration qui était celle de l'agent double. Et je m'étais exprimé ainsi pour vous montrer que parfois nous avons des ennemis que nous croyons être extérieurs à nous, et en fait nous nous rendons compte que l'ennemi est intérieur, et nous voyons que finalement nous sommes notre plus grand ennemi. J'aimerais maintenant utiliser une deuxième illustration qui va un petit peu dans le même sens, et pour ceux qui sont familiers de la littérature grecque, bien connu de l'Odyssée d'Homère ou de l'Énéide ou les textes de Virgile pour ceux qui étaient des latinisants, s'il y a eu des gens parmi vous qui ont fait du latin et du grec à l'école et qui n'ont pas dormi pendant ces heures de cours, pour ces gens-là, n'est-ce pas, il y a une certaine connaissance de peut-être ce qu'on appelle l'histoire de la guerre de Troie. Et vous savez que pendant les guerres de Troie, les armées grecques ont assiégé cette ville pendant 10 ans, ainsi déclare cette histoire qui est probablement un mythe ou une légende, et on dit que les Grecs ont réussi finalement à prendre la ville grâce à un habile stratagème. Quel était ce stratagème? Ils ont construit un immense cheval en bois, certains disent un navire, mais plus probablement un cheval, comme une grande idole, une sculpture en bois creuse, et les armées se sont retirées comme si elles étaient vaincues. Et à l'intérieur du cheval, ils ont placé 10 d'hommes qui ont patiemment attendu. Pendant plusieurs jours, les Troyens ont vu ce cheval et se sont dit « Waouh, ils ont abandonné leur idole !» Et au bout de 3 jours, ils sont sortis, ont vu le cheval qui traînait devant la ville, il était en plus sur des roulettes, ça aidait, ils l'ont tiré jusqu'à l'intérieur de la ville, l'ont placé au centre de la ville, et se sont mis à se réjouir d'avoir obtenu la victoire. Mais le soir venu, les 10 personnes qui étaient cachées dans le cheval sont sorties, ont ouvert la porte, et les armées grecques ont pu pénétrer dans la ville de Troie et la saccager. Cette illustration est parfaite pour vous montrer le but de ce que l'ennemi qui est à l'intérieur de vous-même, votre orgueil, est capable de faire dans votre propre vie. Il est capable d'ouvrir les portes de votre cœur. Et en effet, le passage que nous allons étudier aujourd'hui commence par « c'est pourquoi » ou selon les versions par « c'est pour ces raisons ». Le passage à l'étude, en réalité, est directement connecté au passage que nous avons lu la dernière fois, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, nous avons mis en évidence que la présomption de soi, notre présomption de nous-mêmes, corrompt notre liberté. L'orgueil, finalement, est cet ennemi intérieur qui ouvre tout grand la porte à un ennemi extérieur. L'orgueil est la porte ouverte à la chute. Comme dit le proverbe, l'orgueil précède la chute. Et à quel ennemi puissant l'orgueil ouvre-t-il la porte? Versets 14 à 22 que nous allons étudier aujourd'hui, il ouvre la porte à l'idolâtrie. Il ouvre la porte à l'idolâtrie. Il est important de se focaliser sur ce sujet-là parce que ne perdez pas de vue que depuis que nous avons commencé cette série, depuis le chapitre 8, Paul a en vue de répondre à une question des Corinthiens qui porte sur les viandes sacrifiées aux idoles. C'est la question initiale des Corinthiens, chapitre 8, verset 1, chapitre 8, verset 10. Et c'est probablement la consommation de ces viandes directement dans un temple à idole, comme nous montre le verset 10 du chapitre 8, qui est en cause. Et c'est l'une des conclusions vers laquelle Paul veut arriver, que nous sommes en train de lire maintenant. Et la conclusion est la suivante, c'est que l'idolâtrie anéantit ma liberté. l'idolâtrie anéantit ma liberté. L'idolâtrie, c'est un sujet qui est particulièrement grave, c'est un sujet qui est particulièrement critique pour les Corinthiens. Vous savez qu'on parlait de la débauche généralisée qui avait cours à Corinthe, et Paul, il leur donne ce conseil, il leur dit, il y a des choses, vous ne devez pas rigoler avec, il y a des choses, vous ne devez pas les regarder dans les yeux, fuyez la débauche, fuyez-la, cherchez pas à essayer de lui résister, sauvez-vous, faites comme Joseph, qui lorsqu'il était tenté par la femme de Potiphar, il s'est sauvé en courant. Joseph a préféré perdre un bon manteau qu'une bonne conscience, et il lui a abandonné dans la main. Fuyez la débauche, chapitre 6, verset 18. Mais regardez ce que Paul dit maintenant, sur le même ton dramatique. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Et ça nous montre la grandeur du problème que l'idolâtrie avait pris, la place que ça avait pris dans l'église de Corinthe, et le piège qui était en train de se refermer sur elle, le piège satanique, diabolique, qui était en train de les envelopper. Voilà le thème d'aujourd'hui, chers amis. L'idolâtrie anéantit ma liberté. Prenez garde, l'idolâtrie anéantit ma liberté. Et ce que Paul veut montrer maintenant, au travers de l'illustration d'un autre repas que celui qui a cours dans les temples à idoles, il veut montrer au travers de la Sainte Cène que cette idolâtrie est un véritable piège. Et l'illustration de la Sainte Cène va l'amener à préciser trois choses sur la nature de Dieu et sur la nature de l'idolâtrie. La première chose, c'est que la communion du croyant est au corps et au sang de Christ. La communion du croyant est au corps et au sang de Christ. La deuxième chose, il va montrer ce qu'est réellement l'idolâtrie. Et enfin, dans un troisième temps, Paul va exprimer combien nous servons un Dieu qui est jaloux. Combien nous servons un Dieu qui est jaloux. Regardez avec moi, premièrement donc, la communion au corps de Christ et au sang de Christ. La communion au corps de Christ et au sang de Christ, versets 14 à 18. À vrai dire, quand on parle de Sainte Cène, on parle de quelque chose qui est symbolique. Mais je n'aime pas l'expression ou le terme « symbole » quand il s'agit de le rapporter à la Sainte Cène. Certainement, ce ne sont que des symboles, car en eux-mêmes, ils n'ont aucun pouvoir. Et après avoir puisé dans l'Ancien Testament pour illustrer le danger de l'orgueil pour la liberté chrétienne, Paul y veut maintenant utiliser une ordonnance directement donnée par notre Seigneur pour illustrer ses propos. Et il va utiliser celle de la Cène. Qu'est-ce que la Sainte Cène finalement? Chaque dimanche, je ne sais pas à quel rythme vous prenez la Sainte Cène dans votre église, dans mon église on le fait tous les dimanches, chaque dimanche ou chaque occasion de Sainte Cène, vous la prenez, vous répétez souvent les mêmes textes, généralement on répète souvent 1 Corinthiens 11 ou Luc 22, et nous consommons du pain et du vin. Ces deux éléments sont un symbole pour un mémorial, ils nous aident à nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune puissance et ils n'ont aucun pouvoir magique, si je puis m'exprimer ainsi, en eux-mêmes. Il s'agit uniquement de pain et de vin. Les églises traditionnelles, comme par exemple l'église catholique romaine, ont une formule pour désigner le repas du Seigneur, qu'ils appellent Eucharistie, soit dit en passant. Et la formule, c'est que le sacrement serait, accrochez-vous bien pour ceux qui font du latin, ne dormez pas tout de suite, serait ex opere operando. Autrement dit que, en lui-même, le pain et le vin, en eux-mêmes, ces deux éléments, une fois consacrés par le prêtre, auraient la capacité d'être actifs pour pardonner les péchés. Ce n'est absolument pas ce que nous croyons, et si ce n'est absolument pas ce que nous croyons, c'est pas parce que ça nous fait plaisir de croire différemment, c'est parce que la Bible elle-même, elle envisage la Sainte Cène comme un mémorial, et certainement pas comme quelque chose qui est un pouvoir magique qui puisse vous pardonner les péchés. C'est extrêmement important de se souvenir de ça. Nous venons de le chanter. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Un sacrifice, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui a été fait une fois pour toutes. Il n'est pas besoin de le réactualiser. Il n'est pas besoin de manger du corps ou du sang de je ne sais quoi. Il n'est pas besoin d'un pouvoir magique quelconque. Il est simplement nécessaire de croire en Christ crucifié sur la croix, mort et ressuscité pour le pardon de vos péchés si vous avez cru. Amen. On est bien d'accord. Il ne s'agit que de pain et de vin, rien d'autre. Donc, ne surestimez pas le pouvoir des symboles. Mais en même temps, ne sous-estimez pas ce qu'il y a derrière les symboles. Parce que si le pain et le vin sont des symboles qui pointent vers Christ, ils pointent vers une réalité qui est bien plus grande que du pain et du vin. Si c'était que du pain et du vin, moi je serais d'accord. Mais ça pointe vers quelque chose qui est beaucoup plus fort que cela. Ça pointe vers la mort et la résurrection de Christ. Ça pointe vers l'œuvre de Christ à la croix. Ça pointe vers l'alliance nouvelle, l'alliance de grâce qu'il traite avec ceux qui lui appartiennent. Lorsque nous prenons la scène, nous ne la prenons pour nous souvenir que Christ a donné son corps pour nous, le pain, et que son sang a coulé pour nous. Ce faisant, nous nous souvenons que nous sommes en relation avec lui, que nous sommes rentrés dans son alliance à cause de son œuvre à la croix. C'est un symbole de la communion avec Christ. Ce que j'affirme maintenant, c'est que si vous considérez le repas du Seigneur uniquement comme un simple symbole, vous passez à côté de beaucoup de choses. Parce qu'au moment de la Sainte Cène, votre foi est exercée pour vous souvenir de ce moment bien précis qu'est la mort de Christ à la croix. Ce qui rend, pour celui qui croit, Christ présent d'une manière très spécifique, très personnelle pour lui. Et c'est pour ça que ce moment de la Sainte Cène est un moment tout à fait désigné pour nous conduire à la repentance, par exemple. Notez, très important quand vous relirez chez vous 1 Corinthiens 11, il est écrit que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il choisisse s'il prend ou il ne prend pas. Non. Que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il prenne. C'est pas une histoire de s'examiner pour choisir si on prend ou si on ne prend pas. C'est une histoire de s'examiner pour se repentir et prendre. La Sainte Cène est un moyen de la grâce pour vous amener à la repentance. Ce sont des symboles qui ont une portée bien plus grande que de simples symboles. C'est un moyen de la grâce dans les mains de Dieu, mais ce n'est absolument pas un pouvoir magique. Ça pointe vers la communion que nous avons avec Christ, ce qui me conduit directement à l'autre aspect de ce que je voulais déclarer maintenant à propos de la communion au corps et au sang de Christ. Il s'agit de la nature de la communion avec Christ, parce que nous sommes en communion avec Christ, c'est ce que dit le texte que nous avons ici. Nous sommes en communion avec Christ et il s'agit d'une relation personnelle. C'est-à-dire que la communion que nous avons au corps et au sang de Christ consiste à le connaître personnellement. Alors c'est une phrase qu'on répète à tort et à travers dans nos milieux. Bien souvent on l'utilise un peu légèrement et on oublie ce que ça signifie réellement. Mais si je dis par exemple que je travaille, je ne sais pas moi, mettons je travaille à la RATP, je suis seul dans mon bus, mais je connais les autres personnes qui conduisent les bus dans la même ligne que moi. Quand je dis « je connais ces personnes-là », je dis que j'ai une connaissance d'eux. Mais cette connaissance n'a pas beaucoup de rapport avec la connaissance, par exemple, que j'ai de mon frère, ou de ma sœur dans la même famille que moi, sous le même toit que moi, ou la connaissance que j'ai de mon conjoint. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la relation personnelle que nous avons avec Jésus-Christ est une relation de proximité tellement forte qu'elle peut s'apparenter, et le mot est faible, à celle qu'on peut avoir avec son père, avec sa mère, avec son frère. La communion que nous avons au sang de Christ est une communion forte qu'on est appelé à développer de sorte que Christ prend la première place dans ma vie, loin devant tous les membres de ma famille selon la chair. Voilà la nature de la communion qui nous unit à Jésus-Christ. C'est très dur ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes en train de vivre à mon église à Montreuil une situation très difficile. Parce que nous avons des partenaires, une autre église, qui dans leur culture ont tendance à mettre la famille devant la parole de Dieu. Et si une conviction théologique claire sur l'œuvre de Christ ou sur le salut ou sur des choses centrales comme le baptême vient perturber leur famille, ils ont tendance à l'écarter, à ne plus vouloir en parler. C'est dramatique. Parce qu'il est écrit « si quelqu'un ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs », il n'est pas digne d'être mon disciple. Jamais, jamais le but de Christ est de diviser des familles. Mais des familles sont bien souvent divisées à cause de la sainte doctrine de Christ. Quel grand malheur, n'est-ce pas? Mais c'est écrit et c'est prophétique. C'est ce qui était annoncé. Une relation personnelle qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Prenez la personne dans votre entourage avec laquelle vous avez la relation la plus intense qui soit. Multipliez-la par 10 000 milliards si vous le pouvez dans votre tête, et vous aurez un aspect et un aperçu de ce que Dieu voudrait avoir comme relation et comme communion avec vous. C'est juste énorme. Personne ne peut vous remplir d'amour et d'amitié plus que Christ ne peut le faire. C'est une communion. Le terme originale utilisée ici implique une sorte d'association étroite mettant en œuvre un intérêt mutuel, un partage, un échange, un transfert de choses. Le mot original, c'est koinonia, de la générosité, de l'altruisme. Et c'est un mot qui est issu de la même racine que celui qui était utilisé pour montrer que l'église de Jérusalem, la première église, mettait tous ses biens en commun. C'est la même racine de mots. On parle d'un partage qui sont, je dirais, communiqués à tous ceux qui sont en communion avec Christ. Tous les biens de Christ nous sont partagés dans le cadre de la communion individuelle que nous avons avec lui. Il nous a obtenu absolument toutes les bénédictions qui sont nécessaires à notre bonheur et à notre joie parfaite, et il nous les partage. Ainsi va la communion avec Christ. Il est question aussi de ne faire qu'un seul corps dans le texte que nous étudions. Et Paul insiste sur le fait qu'il y a un seul pain qui est rompu lors du repas du Seigneur. Il y a un seul pain qui est rompu pour nous tous, afin que nous puissions tous en manger, afin que nous rendions tous témoignage au monde que nous sommes un seul corps. Lorsque nous prenons la scène, nous témoignons de notre unité dans le corps de Christ. Christ a un seul corps, de même, nous ne formons qu'un seul corps. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes un. Et c'est extrêmement important que nous nous en souvenions, parce que nous vivons dans une société qui nous impacte et qui nous affecte. Si vous pensez que vous vivez dans ce monde sans être influencé par ce monde, vous faites une grave erreur. Nous sommes tous influencés par ce monde consumériste et individualiste dans lequel nous vivons. De sorte qu'aujourd'hui, on envisage la relation personnelle avec Christ comme une affaire individuelle. Ce qui n'est pas absolument faux. Mais ce n'est pas non plus absolument vrai. Parce que la nature de la communion avec Christ est de nature communautaire. Vous formez un seul corps. Est-ce que vous pensez que votre main, vous pourriez la mettre dans un brasier sans que tout le corps souffre ? Coupez-vous la main et vous allez voir comment tout votre corps va en éprouver la douleur. Je viens d'aller me faire hospitaliser la semaine dernière. Rien de bien méchant, c'était juste pour un examen. Tout le monde se moque de moi dans mon église parce que je leur ai dit « Ouais, je vais me faire mettre sous anesthésie générale » alors qu'en fait, je pouvais faire une anesthésie locale. Vous voyez, ils se sont tous moqués de moi. Bref, je suis arrivé là-bas. Ils m'ont traité un peu de douillet, quoi. Je suis arrivé là-bas et en arrivant sur place, ils m'ont posé un certain nombre de questions sur le mal aux intestins que j'ai. Et en décrivant les symptômes, je m'en étais jamais vraiment rendu compte, mais tout mon corps est tributaire de cette souffrance qui m'habite au niveau des intestins. À tel point que des fois, j'avais de telles aigreurs au niveau de l'estomac que j'étais plié en deux, j'arrivais même plus à marcher. Mes jambes ne pouvaient plus fonctionner parce que mon estomac fonctionnait difficilement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'image que Paul donne de l'Église est l'image d'un corps. Donc si vous voulez retrancher un membre du corps, vous retranchez un membre de la communauté, ça fait mal au corps, vous voyez ? Vous êtes un seul corps, c'est une affaire communautaire l'Évangile. C'est pas juste un truc individuel, autrement chacun vivrait sa foi dans son coin. Moi j'ai juste à m'enregistrer mes prédics sur Internet et puis vous restez chez vous, vous les écoutez. Si vous faites ça, je viens vous chercher chez vous, ok ? Nous sommes un groupe indivisible qui a une relation exclusive avec Christ. Si quelqu'un dans le groupe tombe dans l'idolâtrie, ça a un impact sur tout le groupe. N'avez-vous pas vu que c'est Achan qui seul a péché et qui a jeté l'interdit sur tout Israël ? Prenons garde. Ce sont des choses qui nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière, à nous stimuler à la lumière, à ne pas nous juger les uns les autres parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, à venir nous exciter aux bonnes œuvres et à l'amour, comme dit Hébreux 10, à nous édifier les uns les autres sur notre très sainte foi, à poursuivre la charité, à rechercher les bonnes œuvres, à nous encourager à la piété. C'est une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas les espèces de boum ou de fêtes qui sont faites dans les églises entre chrétiens, parce que bien souvent ce sont des occasions d'ivrognerie, de débauche ou de je ne sais quoi. Ce sont des choses qu'on fait pour s'amuser, nous ressemblons au monde, alors qu'on devrait s'aiguiser et s'exercer les uns les autres à ressembler à Christ. Est-ce que vous pensez que Christ serait allé dans une boîte de nuit en train de faire un et encore je le chante mal. Non mais sérieusement quoi. C'est pas du légalisme ou du rigorisme ce que je suis en train de vous prêcher. C'est juste Comprenez bien que si nous sommes rassemblés aujourd'hui, je suis au milieu de vous avec mes fautes, mes péchés, mes chutes. Vous êtes devant moi avec moins de péchés, j'en suis convaincu. Moi-même, moi tout seul, on fait le cumul si vous voulez. Je pense que j'ai péché 100 fois plus que vous tous. Mais nous sommes là pour nous exciter aux bonnes œuvres. Et c'est pour ça que mon frère Clément, il m'envoie des SMS cette semaine sur un problème qui me concerne et qui me connaît et qui me demande comment ça va. Update, s'il te plaît. Dis-moi comment ça va. Donne-moi des nouvelles. Je prie pour toi. C'est pour ça aussi qu'on se reprend les uns les autres. C'est pour ça que la discipline d'église, ça existe. C'est pour ça que dans le corps de Christ, on ne fait pas n'importe quoi. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Enlève Francis et je vivrai mieux. Enlève Francis et j'aurai beaucoup de mal à vivre ma vie spirituelle dans ce corps. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Et c'est la raison pour laquelle on prend soin des membres qui nous paraissent les moins honorables. Parce que de même que mon intestin, je le vois pas tous les jours quand je me regarde dans la glace. Et pourtant, lorsque je suis malade des intestins, ça affecte tout mon corps. C'est bien souvent les membres du corps qui sont les plus inoffensifs, méprisables d'apparence et qui semblent les plus inutiles, qui sont souvent les plus utiles. Prenez garde, chers amis, vous êtes un corps, vous êtes une communauté, vous avez une communion intense à Christ. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec cette communion-là. Yes ? Ce qui nous amène directement à notre deuxième point. Notre deuxième point, si j'arrive à l'attraper, c'est que l'idolâtrie est quelque chose d'absolument dramatique. Et Paul veut nous donner la vérité sur l'idolâtrie. La vérité sur l'idolâtrie, versets 19 et 20, première partie du verset 20. La première chose que Paul va nous dire sur l'idolâtrie, c'est que quand vous sacrifiez une viande aux idoles, la viande sacrifiée à l'idole et l'idole en elle-même, elles ne sont rien. Regardez le verset 19 avec moi. Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Certainement pas. Et dès le début de sa réponse à la question des Corinthiens, Paul, il va leur dire ça. Il leur dit, chapitre 8, verset 4, « Nous savons, et vous le savez comme moi, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. » Maintenant, est-ce qu'il serait en train de changer de propos ? Bien sûr que non. Est-ce qu'il serait en train de dire que les idoles seraient quelque chose ? Est-ce que Dieu serait derrière ces statues, comme il l'est derrière les symboles du pain et du vin ? Mais certainement pas. Ou est-ce que la viande que l'on sacrifie aux idoles serait quelque chose ? Mais certainement pas. Les idoles, chers amis, ancrez-le dans votre tête, ne vous laissez pas abuser. Les idoles ne sont que vanité. L'horoscope n'est que vanité. Les statues que les gens adorent ne sont que vanité. Je me souviens, j'étais en Inde il y a un peu moins d'un an maintenant, à peu près un an. J'étais en Inde, et partout où j'allais, des statues, des idoles de partout, mais c'était extrêmement troublant, moi je ne connais pas ça du tout, vous voyez. Partout où j'allais, des statues, des gens qui se prosternaient devant, mais j'étais profondément choqué. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est incroyable de voir tous ces gens qui accordent une telle importance à des statues, des photos, des idoles, des personnes. Je me rappelle, une des idoles qui étaient les plus adorées en Inde, c'était un gars qui s'appelait Sai Baba. Sai Baba, c'était un gars, comme vous et moi, un gars un peu gros d'ailleurs. Ils l'avaient pris en photo, ils avaient mis ses photos partout, et les gens, ils se baladaient avec dans leur voiture la photo du gars, quoi. Et puis, ils se prosternaient devant, Sai Baba, notre Dieu et compagnie. Moi, je regardais le gars, je disais, mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Attends, je vais te donner la photo de ma femme, tu vas voir, ça va aller. N'importe quoi. Les idoles ne sont rien. Elles ne sont pas Dieu. Elles-mêmes ne sont rien d'autre qu'un morceau de bois ou de pierre. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec un morceau de bois ? Regardez ce que dit Esaïe. Il le prend, il le jette au feu. Ok ? Il taille son idole. Il y a des copeaux, il y a des chutes. Qu'est-ce qu'il fait avec ? Il se chauffe avec. C'est exactement ce que dit le prophète Esaïe. Et Dieu se moque des idoles. C'est une stupidité abominable. Attends, tu te rends compte qu'ils prennent de l'or, ils forgent un veau d'or et ils disent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Mais comment est-ce qu'il a pu te faire sortir d'Égypte ? Tu viens de le façonner. Incroyable. Pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours. Dieu n'est pas derrière les idoles de Corinthe et par conséquent, la viande qu'on leur sacrifie n'est rien et ces idoles ne sont rien. La viande sacrifiée aux idoles et l'idole elle-même ne sont rien. Maintenant, Satan et son armée sont derrière l'idolâtrie. La viande que l'on sacrifie aux idoles n'est rien, l'idole n'est rien, mais dans ce cas, Paul, pourquoi est-ce que tu nous mets en garde contre l'idolâtrie ? Je me souviens, j'ai un beau-frère qui est très beau, qui s'appelle Marc. Ce beau-frère a acheté un jour un appartement. Et il l'a payé, il a fait une super affaire. L'appartement était refait à neuf, le gars avait mis une belle frisette bien propre partout. Et quand on a visité l'appartement, c'était dans une petite cour calme, il y avait un petit escalier, ça faisait un grand deux pièces, et pour l'endroit où il l'avait acheté, c'était vraiment pas cher. Marc, il n'était pas très riche, il avait pris un peu de sous pour financer ce projet, il avait dû emprunter de l'argent. Quand il s'est installé dans son appartement, il s'est dit waouh, c'est génial. Je crois qu'au bout d'une semaine, il a failli y mettre le feu. Vous savez comment? En appuyant sur l'interrupteur. Alors il a enlevé la frisette et il s'est rendu compte qu'en fait il s'était fait complètement arnaquer. Le gars avait mis de la frisette partout pour ne pas refaire l'installation électrique qui n'était non seulement pas aux normes, mais qui en plus était dangereuse. Dès lors, il s'est rendu compte que les apparences sont parfois trompeuses et que derrière quelque chose qui semble magnifique et beau, il se cache quelque chose de parfois terrible, voire d'horrible. Et au chapitre 8, Paul, il a mis les Corinthiens en garde contre le fait de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Et il cite cet exemple précis. Il dit que plusieurs Corinthiens, ils envisageraient encore l'idole comme étant quelque chose d'important. Chapitre 8, verset 7. Il leur dit, OK, vous savez qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. On est OK là-dessus. Mais parmi vous, il y a des gens qui croient que l'idole, c'est important. Donc si vous allez dans un temple à idole, vous allez être une occasion de chute pour eux. C'est ce qu'on a vu lors du premier message. Donc Paul, d'un côté, il est absolument d'accord sur le fait que les idoles ne sont rien, mais il ne veut pas prendre et laisser déformer cette vérité pour que des gens puissent dire, oh bah puisque c'est rien, bah je peux y aller tranquille, normal, là-bas c'est cool, il y a de la bonne viande, c'est gratuit, c'est au temple à idoles, je vais y aller quoi, normal quoi. Certainement pas. Paul ne va certainement pas laisser faire ça, parce que sacrifier à une idole, ce n'est pas neutre. Il y a toujours une certaine motivation derrière. Et la motivation de ceux qui vont sacrifier aux idoles dans le temple, ce n'est pas celle de déposer de la viande devant des morceaux de bois seulement, ou de pierre, mais de sacrifier à une divinité. Et cette divinité, nous dit Paul, en fait, c'est un démon. L'implication pour les Corinthiens, elle est claire. Lorsqu'ils participent à un festival qui honore un idole, une idole dans un temple païen, ils sont en train de participer à l'adoration d'un démon. Si vous participez à un culte païen, vous participez à l'adoration d'un démon. Prenez garde. L'Évangile nous met clairement en garde ici par rapport à la réalité qui se trouve derrière le morceau de bois ou de pierre que peut-être certains dans vos familles adorent. Prenez garde à vous-même. Maintenant, regardez avec moi pourquoi ces choses sont particulièrement incompatibles avec la vie chrétienne normale, puisque le Seigneur, et c'est notre troisième point, est un Dieu jaloux. La jalousie du Seigneur, versets 20 à 22. Nous sommes appelés à cultiver, chers amis, l'exclusivité de notre relation avec Christ. Et nous l'avons dit. Il y a un seul pain, nous formons un seul corps, nous adorons un seul Seigneur, il y a un seul baptême, c'est l'exclusivité de la relation du corps de Christ avec Christ, c'est un truc exclusif. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus exclusif sur cette terre que l'adoration de Christ. Il y a une seule vérité, un seul sauveur, un seul chemin, nous sommes rachetés pour servir un seul maître, nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et une idole, c'est rigoureusement impossible, c'est comme vouloir vous asseoir à la fois sur cette chaise-là et sur cette chaise-là, vous allez vous asseoir par terre. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez tout simplement pas vivre votre vie chrétienne en dehors de la perspective d'adoration exclusive de Christ sans que votre vie tout entière n'en soit affectée. Je parlais avec un frère hier un peu radical. Vous savez quoi, je l'aime bien ce frère. Certains parmi vous, ils le connaissent. Il s'appelle Cal, donc radical, tu vois. Et Callaghan, pour ceux qui le connaissent, en ce moment, il est dans le mode « je vais plus aller au cinéma ». Et il m'a dit ça, et il a cru que j'allais me moquer de lui, parce que moi, j'y vais au cinéma. Je ne me suis pas moqué de lui. Parce que les premières années de ma vie chrétienne, je n'allais plus au cinéma. Et c'était souvent un truc, les gens qui étaient dans mon entourage, mes amis non chrétiens, ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais t'es devenu un extrémiste, mais tu es fou, pourquoi est-ce que tu ne vas plus au cinéma? Et moi, je leur disais, mais c'est même pas que j'y vais plus parce que j'ai décidé de plus y aller, j'y vais plus parce que j'ai plus envie d'y aller. Mais maintenant que je retourne au cinéma, chaque fois que j'y vais, il se passe deux choses. La première chose, c'est, purée, qu'est-ce que c'était nul. Je crois que je n'ai jamais vu autant de navets depuis que je suis chrétien. C'est comme si Dieu avait exercé mon jugement critique pour que je puisse discerner les navets. Et forcément, je vais vous dire, franchement, on est en mode navet de nos jours. Ça, on aime bien les effets spéciaux, les blockbusters, appelez ça comme vous voulez. Franchement, les scénarios sont de moins en moins crédibles. On dirait que tout le monde a appris le kung-fu en mode accéléré. Et on comprend plus rien au film. Okay, deuxième chose, quand je sors de la salle de cinéma, quasiment les trois quarts du temps, je me dis, j'ai perdu de l'argent. Bon, on va dire qu'il y aura trois choses. J'ai perdu de l'argent. Troisième chose, et je me dis régulièrement, j'ai perdu du temps. Dans un sens, j'ai pas perdu de temps. Je me suis documenté sur la pensée du monde. Dans un autre sens, j'ai tué 120 minutes ou 130 minutes. Je les ai tués parce que je me suis concentré et je me suis laissé immerger dans quelque chose qui a un caractère idolâtre. Oh, c'est dur ce que je dis. Bah écoutez, moi je suis un fan de films de super-héros. Ben, je vais vous dire un truc. Le film de super-héros, c'est le culte du surhomme. Le film du super-héros, c'est le culte de l'homme parfait. Le culte du super-héros, c'est le culte de l'homme fort, glorieux, qui règle par lui-même ses propres problèmes, et que par l'évolution de notre race, chers amis, un jour on sera capable de prendre en main nos propres problèmes. C'est ce qui transparaît dans la pensée de tous les films Marvel que j'ai pu lire. Et quand vous savez que Marvel, il était influencé par le shintoïsme, par le bouddhisme, par l'hindouisme, il y a quelque chose qui finit de ne plus vous surprendre dans la relation que vous avez avec ça. Mais je vais au cinéma, et c'est pas une question de règles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'exclusivité de notre relation passe bien souvent avec des coupes radicales pour les choses qui constituent notre affection personnelle. Je ne crois pas que le cinéma soit mon idole. J'y vais vraiment peu souvent, j'y vais même pas une fois par mois. Mais je dois avouer que j'ai d'autres idoles dans ma vie. Vous ne pouvez pas cultiver l'exclusivité de la relation avec Christ si c'est quelque chose qui se dresse en travers de vous et de Christ. Vous êtes appelés à cultiver cette exclusivité. La deuxième chose, c'est qu'il y a une impossible communion entre le chrétien avec les idoles et les démons. Essayez de vous imaginer quelque chose. Si vous n'êtes pas marié, imaginez que vous êtes marié. Et si vous êtes marié, pensez à votre conjoint. Imaginez que vous êtes marié avec la personne qui est la plus délicieuse à vos yeux. La personne qui constitue votre tout. Et cette personne avec qui vous partagez la plus totale intimité va vous tromper avec quelqu'un d'autre. Et va donner cette intimité à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que vous vous ressentiriez? La Bible, elle utilise à plusieurs reprises l'image de la relation maritale pour expliquer la relation qui unit Christ aux croyants. Mais est-ce que vous vous rendez compte combien ce n'est qu'une image et combien la relation que Christ veut avoir avec les croyants est tellement exponentielle par rapport à la relation qu'un mari peut avoir avec sa femme? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le sentiment que vous pourriez avoir si votre conjoint vous trompait n'est rien par rapport au sentiment que le Dieu parfait a à chaque fois que nous oublions de vivre cette exclusivité avec lui. L'exclusivité est la base de la relation avec Christ. Si nous laissons quoi que ce soit interférer au milieu d'elle, nous prenons le risque de briser cette relation. Regardez le verset 22 avec moi. Il est question d'un Dieu jaloux. Il est question d'un feu dévorant dans un parallèle de l'Épître aux Hébreux. L'idolâtrie, c'est donc la conséquence, elle a pour conséquence finale de provoquer la jalousie de Dieu et de l'exciter. Mais voilà une question très importante. Depuis quand est-ce que Dieu peut être jaloux? Je sais pas quoi. Jaloux, c'est pas une qualité, ça, jaloux. Jaloux, c'est jaloux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que Dieu peut-il être à la fois amour et jaloux? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je crois que l'explication la plus succincte et la plus efficace, c'est celle de J.L. Packer qu'il donne dans Connaître Dieu. Laissez-moi vous le lire. Il dit, il y a deux sortes de jalousie. L'une est un vice. C'est une attitude qui dit, je veux ce que tu as et je te hais parce que je ne l'ai pas. Mais il y a une deuxième sorte de jalousie, un zèle de protéger une relation d'amour et de la venger quand elle est brisée. Les Écritures considèrent toujours la jalousie de Dieu sous l'angle de cette deuxième définition. Un zèle de protéger une relation d'amour et de la venger quand elle est brisée. En d'autres termes, la jalousie de Dieu est à la fois la garantie qu'il va protéger notre relation avec lui, mais en même temps l'affirmation qu'il ne peut pas tolérer que nous lui accordions autre chose que l'exclusivité dans ce cadre. Croire que l'on peut impunément briser la relation avec Dieu sans que sa jalousie n'en soit provoquée, c'est se croire plus fort, plus malin que le Seigneur. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Est-ce que vous pensez être plus fort que Dieu ? J'aimerais conclure maintenant. L'idolâtrie commence dans notre cœur. Ézéchiel 14, verset 3. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Oh, ils ont leurs idoles dans leur cœur et pas seulement sur des morceaux de bois ou sur des morceaux de pierre. » Timothée Keller, dans son livre « Les idoles du cœur », livre que je vous recommande. Honnêtement, c'est très rare que je lise un livre deux fois. Certains, comme « Le voyage du pèlerin », je les ai lus trois fois ou quatre fois. Mais « Les idoles du cœur », quand j'ai fini de le lire une fois, je l'ai relu tout de suite une deuxième fois. « Les idoles du cœur », c'est un livre à lire. Timothée Keller, dans « Les idoles du cœur », a dit « Il y a 2000 ans, les nations les plus avancées adoraient des idoles faites de bois et de pierre. Aujourd'hui, nous rions de leur ignorance. » Mais est-ce que nous sommes plus avancés ? Pour la plupart d'entre nous, le mot « idole » évoque une statue au sens propre, ou alors la prochaine gagnante de la Star Academy. Pour Clément d'Anguille, vous l'avez compris, Paul Walker était son idole. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles un peu partout dans le monde, mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Le cœur humain, continue Tim Keller, le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection, épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Et il conclut en disant, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Est-ce que vous savez quel est le drame de l'idolâtrie ? Le drame de l'idolâtrie est que nous devenons ce que nous adorons. Il leur ressemble, dit le psaume 135, il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Regardez les gens qui fabriquent ces choses comme ils sont aveugles, et comment l'idolâtrie aveugle, et comment vous ne pourrez jamais rencontrer Dieu en étant idolâtre, parce que vous êtes aveugle comme les idoles que vous construisez, vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir. Endurcis leurs yeux et ferme leurs oreilles de peur qu'ils ne se convertissent, dit Ésaïe 6. C'est dramatique, l'idolâtrie, ça ferme les yeux, ça ferme le cœur, ça bouche votre âme. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu si vous êtes idolâtre. C'est le titre que donne J.K. Beall à son ouvrage. Nous devenons ce que nous adorons. J.K. Beall, pour votre information, c'est l'un des plus grands spécialistes actuellement en vie, Gregory Beall, de l'herméneutique biblique. Et voici l'idée centrale de sa thèse. Quand quelque chose ou quelqu'un devient l'objet de toutes nos attentions, au point de prendre la première place dans notre vie, nous tendons invariablement à ressembler de plus en plus à cette chose et à cette personne. C'est comme ça que vous avez des mecs qui se déguisent en Michael Jackson. Non mais vous rigolez, mais sérieusement, la dernière fois j'étais dans le RER, j'ai vu un gars, il était en train de faire, bon j'arrive pas à le faire, hein. Il faisait les gestes à Michael Jackson dans le métro, tout seul, sur le quai, habillé comme Michael Jackson, et il est rentré dans le métro en faisant une espèce de moonwalk, tout le monde le regardait en rigolant, mais ce gars, vous rigolez, mais moi je rigolais pas, ce gars avait comme idole Michael Jackson. Si l'idole de mon cœur est le pouvoir, la puissance et la gloire personnelle, à l'image des grandes ce monde et des empereurs du passé, je finirai par me comporter d'une manière despotique, autoritaire et diabolique, comme ils se sont quasiment tous comportés. Et écoutez ce que dit Tim Keller à ce sujet. Il dit « Les nazis, ont prétendu défendre un profond amour de leur patrie et de ses citoyens. Mais à un moment donné, cet amour de la patrie est devenu quelque chose de démoniaque, est devenu quelque chose de destructeur, parce que c'était devenu leur idole. Quelle est l'idole de ton cœur, mon ami ? Quelle est la première chose dans ta vie. Croyez-moi, aussi vrai que celui qui cultive son potager sera appelé à souvent arracher les mauvaises herbes qui voudraient éradiquer toute forme de mets succulents qui poussent au fond de votre jardin, de la même manière, vous allez souvent être appelé à faire le ménage dans votre cœur avec l'idolâtrie. Le vieux puritain David Clarkson, commentateur de la Confession de foi de Westminster, dans un sermon qui s'appelle « L'idolâtrie de l'âme interdit aux hommes d'aller au ciel », il a dit « Lorsque l'esprit est épris d'un objet et que le cœur et les affections sont engagées, alors c'est une adoration de l'âme. Et c'est ici la place d'honneur qui doit être donnée uniquement à Dieu. Il doit avoir la première place, la plus haute place dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actions. Mon ami, mon frère, ma sœur, quelle est la place que Dieu a dans ta vie ? Oh, je ne suis pas en train de m'ériger en juge. Croyez bien qu'en prêchant ce sermon, j'ai toutes les bonnes raisons du monde de rentrer chez moi et de me mettre à genoux. Parce que j'ai mes idoles, et c'est à la hache que je voudrais les couper. Et bien souvent, je vois toutes mes limites. Qu'en est-il pour toi ? Que ce message ne soit pas pris à la légère. Chasse les idoles dans ton cœur, abats-les, détruis-les, comme à la journée de Madian. Arrache-les comme Gédéon, le vaillant héros. Va avec cette force que tu as, déracine-les, et rends à la première place de ta vie celle pour celui pour qui elle est. Donne-lui la première place. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons toutes les raisons du monde d'être repris par ce texte. Parce que combien de fois n'avons-nous pas provoqué ta jalousie par notre attitude, par notre mondanité, par notre frivolité, préférant les plaisirs du monde et la jouissance du péché à la communion avec toi, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur, ouvre notre âme, Seigneur, pour que nous puissions te recevoir en entier maintenant, et que nous te remettions à la première place dans nos vies, en vivant cette vie radicale de consécration et de renoncement, Seigneur, en oubliant toutes ces choses jusqu'aux choses qui nous paraissent les plus importantes pour te laisser la place qui te revient de droit. Délivre-nous de l'idolâtrie même de notre propre famille, Seigneur. Et extirpe de notre cœur les idoles du cœur que nous avons forgées, Seigneur. Montre-les nous afin que nous participions à cela, que nous soyons volontaires pour les arracher. Change notre cœur, ne nous laisse pas, Seigneur, ne nous laisse pas dévier. Sans toi, nous serions tout de suite déracinés, éloignés du but glorieux de salut que tu donnes en Jésus-Christ. Viens accomplir, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Sauve-moi, Seigneur, parce que si je dois compter sur moi-même, je suis fichu. Seigneur notre Dieu, viens au secours de notre incrédulité et accorde-nous la grâce de déraciner les idoles de notre cœur pour te laisser la première place qui te revient de droit, afin que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que tout œil te voie. Amen.